42 journalistes tués en 2021 dans l'exercice de leurs fonctions. Alors que l'année s'achève, les chiffres de Reporters sans frontières sont terrifiants. Auparavant, on entendait parler de ces assassinats au Mexique, en Russie ou en Inde, alors que ces exécutions ne sont pas perpétrées seulement à l'autre bout du monde, mais désormais également à l'intérieur même de nos frontières européennes, notre Europe des 27. C'est le sujet de deux enquêtes diffusées ce dimanche soir sur France 5, dans Le Monde en face, le titre « Mafia au cœur de l'Europe ». Bonjour Camille Le Pomelec.
Bonjour.
Vous êtes réalisateur du documentaire Slovaquie, les fiancés assassinés, qui va passer ce dimanche à 21h sur France 5. Sandrine Rigaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef de Forbidden Stories qui produit ces documentaires. D'abord, est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'est Forbidden Stories ?
Oui, alors Forbidden Stories, c'est un réseau international de journalistes d'investigation qui a été créé il y a 4 ans par Laurent Richard, un journaliste français, et dont le but en fait est de poursuivre le travail des journalistes qui sont menacés dans le monde ou arrêtés ou assassinés. Et l'idée de Laurent Richard quand il a créé Forbidden Stories, c'était de dire quand un journaliste est assassiné ou s'il est menacé, c'est son histoire qu'on veut censurer, donc pour lutter contre cette censure, il faut absolument pouvoir travailler et prolonger ses enquêtes et ses histoires. Et donc la première enquête de Forbidden Stories, coordonnée par Laurent Richard, c'était une enquête sur Daphne Caruana Galizia, une journaliste qui a été assassinée à Malte. Le film diffusé dimanche soir parlera de cette enquête collaborative qui a réuni 45 journalistes pour poursuivre le travail de Daphne.
Justement, ce qui frappe, c'est que ces histoires sont récentes, 2017-2018, elles se passent sur le sol européen et on a l'impression qu'on en parle très très peu, moins que ce qui se passe, je dis ça aussi pour nous, je bats ma coulpe, on ne dit pas, il y a des morts en Union européenne pour du journalisme, comment expliquez-vous ceci ?
Oui, c'est difficile à imaginer. Ça se passe, les histoires que nous racontons, l'histoire de Jan Kuciak, un journaliste slovaque, l'histoire de Daphne Caruana Galizia, ce sont des meurtres de journalistes dans l'Union européenne, dans des pays qui sont membres de l'Union européenne, il y a quelques années à peine. On parle de 2017 et 2018, donc c'était hier, et c'était des journalistes qui enquêtaient sur la collusion entre les hommes politiques, mais aussi les oligarques et les réseaux criminels. Et ils pouvaient montrer que la corruption, enfin leurs enquêtes montraient que la corruption pouvait toucher le plus haut niveau du pouvoir politique.
Alors on va se concentrer sur l'une des deux enquêtes, celle que vous avez réalisée, Camille Le Pomelec. Elle s'intitule « Slovaquie, les fiancés assassinés ». Elle raconte l'histoire de Jan Kuciak, journaliste d'investigation. Il a été assassiné le 26 février 2018 à son domicile avec sa compagne Martina. Il n'a que 27 ans. Camille Le Pomelec, d'abord, qui était Jan Kuciak? Comment on pouvait le situer?
Alors Jan Kuciak, c'est un jeune journaliste slovaque qui était encore d'ailleurs à la fac, il finissait une thèse, et donc sa spécialité c'était le journalisme de données, le data journalisme, c'est-à-dire aller chercher dans des sources ouvertes, sur internet, quand on cible par exemple un homme politique dont on pense ou dont on a des indices qu'il est corrompu, on va aller voir qu'est-ce qu'il détient comme entreprise, quels contrats il a fait, et c'est donc sur ces sources ouvertes qui travaille en priorité.
Et c'est absolument passionnant puisque la source est ouverte et par définition la mafia est secrète. Comment il arrive à partir d'une source ouverte et déboucher sur la mafia italienne dans son pays, la Slovaquie, je le rappelle?
Ça c'est une grosse enquête collaborative, c'était la dernière sur laquelle il travaillait, et justement en fait il y avait eu des papiers un petit peu dans la presse à scandale sur des liens entre une conseillère du premier ministre slovaque de l'époque, donc entre cette conseillère et son ancien petit ami qui était un homme d'affaires italien établi en Slovaquie et dont il y avait plusieurs indices qu'il était lié à la mafia, italienne, la 'Ndrangheta. Et donc il a travaillé en fait sur tout ce que, en fait il y a une transparence de l'administration, j'ai découvert ça en Slovaquie, qui est même plus importante qu'en France. C'est-à-dire qu'on va sur internet et on peut obtenir plus d'informations sur les sociétés, les propriétés détenues par les uns et les autres, et c'est comme ça qu'il a pu montrer que cette conseillère du Premier ministre était en lien d'affaires avec cet homme d'affaires italien mafieux.
Parce qu'on le rappelle, sur le papier, la Slovaquie, c'est un pays, tout ce qu'il y a de démocratique, qui fait partie de l'Europe des 27, dont les représentants siègent à Bruxelles et à Strasbourg. Alors, avec ces enquêtes, Jan Kuciak va subir les pressions du monde des affaires, en particulier de cet homme d'affaires, Marianne Kochner. Que découvre-t-il sur cet homme, en deux mots?
Marianne Kouchner, il découvre, donc c'est un ancien journaliste, Marianne Kouchner, qui a fait fortune dans un peu l'immobilier et un peu les coûts. C'est-à-dire qu'il va racheter plusieurs entreprises, se les revendre lui-même pour faire des coûts fiscaux. Et en fait, à partir de la fin de l'année... De la fin de l'année 2016, début 2017, il va enquêter sur cet homme d'affaires qui est un peu croquignolesque, mais qui est aussi assez menaçant.
Menaçant, le mot est faible. Il n'hésite pas, justement, Kouchner, à menacer Yann très personnellement. Vous diffusez dans votre enquête un échange téléphonique entre les deux hommes. On va entendre un extrait. Je précise que c'est sous-titré dans le documentaire. Donc, nous avons doublé les voix documents.
Votre travail est agressif envers moi. Alors je vous le demande, qu'est-ce que ça vous fait si j'ai vendu ou acheté quelque chose ?
Pardon ?
C'est moi qui parle. Alors la ferme. Je suis convaincu que quelqu'un vous a embauché, que quelqu'un vous paie, même si je ne peux pas encore le prouver.
Ce n'est pas vrai, je suis journaliste. Personne ne me dit quoi écrire. C'est moi qui choisis mes sujets.
Monsieur Kusiak, vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes un petit stylo qui pisse sur commande.
Camille Pomelec, c'est cet homme qui a commandité la mort de Jan Kusiak ?
Alors, pour l'instant, la justice slovaque n'a pas répondu à cette question, ou plutôt elle a acquitté en première instance Marianne Kouchner pour défaut de preuve. C'est-à-dire que, en fait, c'est un peu compliqué, mais il y a un commando de tueurs qui ont été reconnus coupables de l'assassinat de Jan Kusiak, deux hommes, qui eux-mêmes ont reçu... Enfin, ce meurtre a été commandité par un intermédiaire, puis une autre intermédiaire, puis ce qui est soupçonné par... qui était accusé, c'était Marianne Kouchner, qui pour ça a été acquittée, parce que pour l'instant, ce que la justice slovaque a pu trouver contre lui, c'est des échanges sur SMS pour parler de quelque chose qui pourrait s'apparenter à cette commande de meurtre. Mais comme c'est des émoticônes, voilà, ça n'a pas été repris par la justice
slovaque
pour l'instant.
Et on le voit dans votre documentaire, on voit les familles qui quittent le procès quand elles apprennent ceci, elles sont totalement dépitées. Sandrine Rigaud, est-ce que ce sont principalement des histoires d'argent qui entraînent les assassinats de journalistes à travers le monde ?
Il y a des histoires d'argent, ça concerne souvent des enquêtes sur les réseaux criminels, sur le pouvoir politique. On le voit avec Jan Kouchak, mais Daphne Caruana Galizia, elle aussi travaillait sur les hommes politiques à Malte. Malte est une île qui est gangrénée par la corruption, et Daphne Caruana Galizia tenait un blog qui était plus lu que tous les quotidiens de l'île réunie. Et donc elle dénonçait ces collusions, elle dénonçait quelquefois avec virulence la corruption et les pratiques des hommes politiques de Malte. Et donc le film que réalise Jules Giroda, qui est diffusé dimanche, raconte à la fois qui était Daphne Caruana Galizia, mais raconte aussi le combat de ses trois fils après sa mort. Trois fils qui se battent depuis sa mort pour lui rendre justice et pour découvrir la vérité. Et ils ont été rejoints par 45 journalistes.
D'un mot, le titre pour lequel écrivait Jan Kuciak, c'était pas une feuille de chou underground. C'était le titre le plus lu en Slovaquie.
Exactement. C'est un portail d'actualité sur Internet, Actuality, qui est le portail le plus lu en Slovaquie.
Ce meurtre en Slovaquie a généré une prise de conscience dans la population, des manifestations énormes. On vous raconte ça juste après ceci. On marque une courte pause.
Philippe Blondel.
Slovaquie, les fiancés assassinés. C'est à voir dimanche soir sur France 5 à 21h dans Le Monde en Face. C'est présenté par Mélanie Taravant. Et puis la seconde enquête, ce sera Malte au nom de Daphné. Ce sera diffusé à la suite. Dans les deux cas, le sujet est le même, le contexte est le même. Il est dramatique. Ce sont des journalistes assassinés dans l'exercice de leur fonction. La rédactrice chef de Forbidden Story qui produit ces docs, c'est Sandrine Rigaud. Elle est avec nous. Le réalisateur du premier doc en Slovaquie, c'est Camille Le Pomelec. Je raconte tout ça au cas où vous preniez l'émission en cours de route, et vous avez bien raison. Camille Le Pomelec, l'assassinat de Jan Kuciak va déstabiliser le pouvoir slovaque. Le pays va connaître les plus grandes manifestations qu'il a connues, dites-vous, depuis la fin du régime soviétique.
Oui, c'est ça. Il y avait 50 000 personnes à Bratislava, la capitale. C'est une petite ville. C'est un petit pays de 5 millions d'habitants, en fait, et qui avait jamais connu autant de manifestations depuis 1980.
Et ça va déclencher une fronde plus globale au niveau de l'État.
C'est ça, le Premier ministre qui était déjà attaqué pour sa gestion de la corruption démissionne et en fait il nomme un de ses dauphins et quelques temps plus tard, hein, ou deux ans plus tard, en fait il y a des nouvelles élections et là il y a à la présidence une femme qui est nommée pour la première fois, qui est une avocate, qui est une militante de l'écologie. Donc c'est vrai que ce meurtre a complètement chamboulé le pays.
Alors avant sa démission, il va un peu paniquer, le Premier ministre s'appelle Robert Fitzo, ça s'écrit d'une manière, il faut prononcer d'une autre, il convoque la presse pour une conférence. Et là, c'est une scène totalement surréaliste. Il y a une table, et sur cette table, des liasses de billets par centaines qui sont posées là, extraits de votre documentaire que nous avons une nouvelle fois doublé.
Voici 1 million d'euros. Cette récompense ira à toute personne qui trouvera le courage de se présenter à la police avec des informations utiles. Mesdames et messieurs, soyons clairs, ce 1 million d'euros vient d'un coffre-fort du ministère des Finances.
On a l'impression qu'on est dans Tintin ou alors dans l'Europe avant la chute du communisme. Qui est ce Roberto Fitzo? Comment vous pourriez le décrire?
C'est un petit homme qui en fait a pris la tête de la gauche en Slovaquie et grâce à l'ancien parti communiste, il a pris le pouvoir justement sur une promesse de lutte contre la corruption face à une droite qui était un peu... qui était empêtré dans plein d'affaires et en fait on se rend compte qu'il était lié à plein d'oligarques, enfin un certain nombre d'oligarques et que lui-même avait sous son régime, il y avait énormément de corruption qui se passait.
Sandrine Rigaud, dans quelle mesure il se passe des choses politiquement après des assassinats et après des reportages?
Alors là on l'a vu avec l'assassinat de Jan Kuciak, il y a une véritable révolution qui se met en place dans le pays. Après l'assassinat de Daphné, il a fallu du temps,
une mobilisation
à Malte, exactement, et c'est le deuxième documentaire qui sera diffusé dimanche, réalisé par Jules Giroda. Après l'assassinat de Daphné, il y a des journalistes qui reprennent son enquête, qui pointent des hommes d'affaires, qui pointent des proches du Premier ministre, et tout ça va aboutir, pareil, à une mobilisation populaire énorme, à une enquête judiciaire, à des arrestations, et le Premier ministre, Joseph Muscat, dont des proches dont le nom de certains proches sont liés à l'enquête, va être obligé de démissionner. Mais ça arrive plus de 3 ans après l'assassinat de Daphné.
Camille Le Pomellec, comment vous avez travaillé sur place? Vous aviez un fixeur, vous êtes passé par les collègues de Yann, comment ça s'est passé?
Les deux, c'était un peu compliqué parce que c'était en contexte de Covid, donc on s'est faufilé à plusieurs moments quand c'était possible, et donc on a travaillé, je travaillais avec une fixeuse qui collabore régulièrement avec le New York Times sur place, qui était vraiment...
Mais journalistiquement, est-ce que vous vous sentiez libre?
Oui, c'est l'Europe. Donc on était libre. Après, ce qui était compliqué, c'était de faire parler des gens qui ne voulaient pas parler. Mais voilà.
Moment émouvant dans votre documentaire, vous avez pu rencontrer la famille de Jan Kuciak, notamment son frère et son père. Extrait.
Jan était quelqu'un de très honnête, de très consciencieux, presque trop pour moi. Je lisais ses articles, mais toutes ces histoires de corruption, c'est sans fin. Tu écris un bel article, et ensuite rien ne se passe.
J'ai toujours voté pour Robert Fitzo, donc on était rarement d'accord. Nous avions des discussions sans fin. Il n'arrêtait pas d'argumenter. Et à la fin, je préférais m'en aller.
Les personnes de ta génération sont habituées au régime communiste, à ce qu'un homme politique pique dans la caisse et redistribue à ses proches.
C'est vrai. On a découvert la démocratie que tardivement.
C'est assez incroyable, il devait lutter contre les a priori de sa propre famille.
C'est ça que j'ai trouvé fascinant. Il venait d'un petit village, d'un milieu extrêmement modeste, Jan Kuciak, et donc... Par lui-même, enfin, il a failli devenir prêtre, quoi. C'était vraiment, il venait de ce milieu très rural, conservateur, et puis il est devenu le journaliste d'investigation à 26 ans le plus en vue de Slovaquie et qui n'hésitait pas, justement, peut-être avec ce côté un peu tête brûlée, entre guillemets, à s'attaquer aux plus puissants et aux plus dangereux.
En parlant de danger, Sandrine Rigaud, qu'est-ce qui arrive en premier chez vous à Forbidden Story? C'est vous qui recensez les histoires comme celle de Yann et vous cherchez ensuite un réalisateur pour l'écrire et la tourner, ou inversement, ce sont des réalisateurs qui viennent et qui vous apportent les histoires?
Ça dépend. En fait, il faut savoir qu'à Forbidden Stories, les enquêtes commencent souvent de façon collaborative. Donc, notre but, c'est de rassembler des journalistes dans le monde entier. On travaille avec les journalistes du Monde, du Guardian, du Washington Post, des journalistes au Liban, des journalistes en Israël. Et plus on est nombreux à travailler sur la mort d'un journaliste et sur les enquêtes qu'il menait, plus cela apporte de la protection. C'est plus simple de travailler à 45 sur une enquête dangereuse que de travailler tout seul. Et plus aussi, ça a de l'impact. Donc, quand on a publié le projet Daphné, avant que ce soit un film, c'était une enquête collaborative qui a été diffusée en même temps dans des journaux, dans plusieurs pays du monde.
Vous avez répondu en partie à ma question. C'est d'abord une enquête collaborative de presse écrite, de site, et ensuite ça devient un documentaire filmé.
Ça peut être, on peut avoir des documentaires qui sont diffusés au moment de l'enquête collaborative, mais le principe c'est de publier ou de diffuser tous en même temps l'enquête pour avoir un plus fort impact. C'est ce qui s'est passé pour les Panama Papers, et c'est ce qu'on fait à Forbidden Stories pour effectivement qu'on puisse entendre parler de ces histoires de journalistes qu'on souhaite censurer au départ.
Est-ce qu'on peut savoir sur quoi vous travaillez actuellement, ou au contraire, par définition, ces projets-là doivent rester secrets jusqu'à la dernière limite?
Oui, exactement. Par définition, ce sont des sujets extrêmement dangereux. La plupart du temps, quand on enquête sur le meurtre d'un journaliste, sur des histoires qu'il n'a pas pu publier, le meurtrier est toujours dans la nature. Il est toujours libre. Donc, par définition, il faut être extrêmement prudent. Donc, nous ne communiquons jamais avant la publication sur les enquêtes que nous menons.
Slovaquie, les fiancés assassinés, et ensuite Malte au nom de Daphné. Ces deux documentaires sont à voir dimanche soir sur France 5 à 21h dans Le Monde en Face. Émission présentée par Mélanie Taravant. Merci beaucoup Camille Le Pomelec. Merci beaucoup Sandrine Rigaud d'avoir été tous les deux avec nous en direct dans Culture Média.